Comment revisiter l'histoire chinoise ? Qui détient le passé et détient l'avenir, écrivait George Orwell il y a 2 ans. D'anciens responsables du Parti communiste et de médias chinois appelaient le gouvernement à des réformes politiques dans une lettre ouverte rapidement censurée par le pouvoir. Mais la censure est intervenue trop tard. Cette lettre dénonçait le manque de liberté d'expression en Chine. On pouvait y lire que si le Parti communiste ne se réforme pas lui-même, s'il ne se transforme pas, il perdra sa vitalité et mourra de mort naturelle, estimaient donc les auteurs de cette lettre publiée sur Internet avant de disparaître des principaux portails et forums de discussion chinois. 23 signataires donc de cette lettre demandaient au gouvernement de lever les restrictions pesant sur le contenu des livres et des médias d'information. Parmi les signataires figurait l'ancien secrétaire personnel de Mao Tse-tung, fondateur de la République populaire de Chine, et Hu Jiwei, un ex-rédacteur en chef du quotidien du Peuple, l'organe de presse officiel du Parti communiste chinois. Alors leur lettre critiquait l'effacement arbitraire des opinions déposées sur la toile. Les citoyens chinois ont le droit de connaître les côtés sombres du parti au pouvoir, pouvait-on lire sur cette lettre. À lire entre les lignes, ce manifeste militait pour une revisitation de l'histoire officielle. La Chine, qui venait de mettre Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix, en prison, devait réécrire son histoire pour commencer ce qui aurait dû être fait à la mort du grand timonier. La démaoïsation de la Chine. S'entamait alors un débat idéologique qui allait secouer à la fois les institutions, la société, le monde universitaire et intellectuel. Comment revenir sur le maoïsme dont le sort a été scellé en 1981 par Deng Xiaoping ? Mao, c'est 70% de bien et 30% de mal. Pour tenter de répondre donc à cette grande question, avec nous dans ce studio improvisé ici à Pékin, Ding Dong, jeune instruit qui fait partie de la génération de ceux qui ont été envoyés à la campagne pendant la Révolution culturelle, garde rouge, longtemps professeur d'histoire à l'université du Shanxi. Vous avez longuement réfléchi sur l'histoire non officielle, celle qu'on ne raconte pas ici en Chine. À côté de vous, Tsui Weiping, ancienne professeure à l'Académie de Pékin, blogueuse connue, intellectuelle engagée, à l'origine de nombreuses pétitions. Et puis avec vous, deux sinologues émérites, Michel Bonin, directeur d'études, à l'École des hautes études, spécialiste de l'histoire contemporaine chinoise et notamment de l'histoire des jeunes instruits, actuellement en poste à Pékin. Et puis à côté de vous, Jean-Philippe Béja, directeur de recherche au CNRS et au Centre d'études françaises sur la Chine contemporaine, actuellement également en poste à Pékin, à l'Institut de sociologie de l'Académie des sciences sociales de Chine. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire la révolution en Chine pour tenter de réécrire l'histoire ?
Je trouve
que la recherche de la vérité historique est une tâche importante à laquelle s'attellent les chercheurs indépendants depuis quelques années.
1949年以来的那个就是你刚才提到的一些被抹杀的历史。
Depuis 1949, la version officielle nie la vérité sur la famine qui a sévi de 1959 à 1961, le mouvement anti-droitier de 1957, la réforme agraire, etc. Même la guerre civile entre les communistes et les nationalistes est redevenue un sujet à la mode. Elle passionne non seulement les intellectuels, mais également les jeunes qui ont toujours sous le bras le très sérieux magazine Yanhuang Chunqiu ou bien Regard sur l'histoire. En fait, les gens considèrent que s'intéresser à l'histoire est une preuve de modernité.
Mais alors, Ding Dong, vous vous intéressez à l'histoire non officielle. Il y a une histoire officielle, une histoire non officielle. C'est quoi cette histoire non officielle ?
La Chine est un pays qui attache une importance toute particulière à l'histoire. Ainsi, Mao Zedong s'est inspiré du livre de Staline, Histoire du Parti communiste de l'URSS, et de sa théorie des cinq stades pour imposer une certaine interprétation de l'histoire. En 1949, après sa prise de fonction, il a demandé aux membres et aux cadres du parti d'étudier l'histoire et de faire en sorte qu'ils en naît tous une vision commune, mais dans les années 80, peu de temps après la mort de Mao Zedong, cette vision a volé en éclats. Succédant à Hua Guofeng, Deng Xiaoping voulait qu'un nouveau regard soit porté sur les victimes de la révolution culturelle. Il devait affirmer qu'il avait raison et que Mao avait tort. Dans les années 80, Indelik Nxia était en phase avec Deng sur de nombreux points. Les intellectuels du courant dominant et les caciques du parti étaient d'accord avec lui sur le fait qu'il fallait tirer un trait sur la révolution culturelle.
Jean-Philippe Béja, comment expliquer, enfin si j'ai bien compris, le grand menteur, entre guillemets, ça serait non pas Mao, mais Deng Xiaoping, comment expliquer qu'il y a eu, comme le disait Ding Dong, ce consensus entre les intellectuels et les membres du parti sur cette histoire?
L'histoire, c'est un élément essentiel de la légitimation du pouvoir. Un pouvoir comme le Parti communiste, il n'y a pas d'élection, il n'y a rien d'autre. Donc qu'est-ce qui lui légitime sa position dominante, sa position dirigeante dans la société? C'est qu'il représente la marche en avant de l'histoire. Donc c'est extrêmement important pour lui d'avoir le monopole de l'interprétation de l'histoire. Alors la question qui se pose, c'est qu'à la mort de Mao, comme on avait vu à la mort de Staline, il y a un changement de ligne et la personne qui va arriver au pouvoir a été persécutée par Mao. Mais l'ensemble de la société a souffert des mouvements qui ont été lancés par Mao. Simplement, Deng Xiaoping a commencé à souffrir des mouvements de Mao à partir de 1960. Donc, il va dénoncer la révolution culturelle. Il va appeler la révolution culturelle les années 66-76, les 10 dernières années du règne de Mao. C'est une façon déjà qui est tout à fait discutable. Mais enfin bon, en même temps, dans la société, il y a un grand nombre de victimes de ce mouvement. Et donc, ils sont d'accord, bien évidemment, pour dénoncer la dictature du grand timonier. D'où ce consensus qui existe entre Deng Xiaoping et l'intelligentsia, en grande partie, qui a été très largement victime de la révolution culturelle, mais aussi de tous ceux qui ont été persécutés par les divers cadres, par les victimes de la révolution culturelle. Mais évidemment, quand on commence à dénoncer les excès du pouvoir, il y a un certain nombre de victimes des mouvements antérieurs qui vont commencer à prendre la parole. Et c'est ce qu'on verra notamment sur le mur de la démocratie dans les années 78-79, où les gens vont venir dénoncer les excès dont ils ont été victimes, c'est-à-dire les persécutions, alors d'abord pendant le mouvement d'éducation socialiste, et puis les droitiers, ces 550 000 intellectuels, ces 550 000 personnes qui ont été envoyées dans les camps de rééducation par le travail pour avoir répondu à l'appel de Mao et critiqué les excès du parti, ces gens-là aussi vont dire « mais nous aussi, nous sommes des victimes de la dictature des dernières années de Mao ». Seulement le problème, c'est que Deng Xiaoping avait prononcé le discours qui a lancé la campagne antidroitière. Et c'est là qu'on commence à avoir une espèce de divergence entre les victimes et le pouvoir représenté par Deng Xiaoping. Et à ce moment-là, on arrivera donc en 1981 à cette décision sur l'interprétation de l'histoire qui est censée mettre un terme au débat. On ne débat plus de ça. Les 20 dernières années sont mauvaises, mais on ne réhabilite pas les droitiers. On dit simplement que le mouvement a été étendu au-delà de ses cibles. Donc, ils ne seront jamais réhabilités. Ils ne sont toujours pas réhabilités aujourd'hui. Ces 600 000 personnes qui ont été victimes de ce mouvement ne sont pas réhabilitées. On a simplement corrigé les verdicts. Ce n'est pas la même chose. Ils n'ont pas eu d'indemnité. Et donc, si vous voulez, à ce moment-là, on a la version officielle qui est « il y a eu du mauvais schéma dans les 20 dernières années, mais il ne faut surtout pas discuter trop en détail tout ce qui s'est passé avant, ni non plus ce mouvement antidroitier et les autres. Et même sur la révolution culturelle, on va dire non, on n'en parle plus. Maintenant, on a un verdict, passons à autre chose, regardons vers l'avenir. Car le problème de la multiplicité des visions de l'histoire, c'est aussi une condition pour la démocratisation. Si vous avez diverses interprétations de l'histoire passée qui voient le jour, on peut avoir aussi diverses interprétations du futur. Comme le disait très justement Orwell, qui détient le passé détient le futur.
Michel Bonin.
Oui, donc ce que je voulais dire, c'est que cette convergence entre les intellectuels ou la société en général et puis Deng Xiaoping, elle est très brève. Hein, et c'est parce que en fait, Deng Xiaoping, il veut réinterpréter un peu l'histoire officielle uniquement, comme l'a dit Jean-Philippe, pour ses propres intérêts. Mais fondamentalement, il reste maoïste dans le sens où il veut utiliser l'histoire pour justifier, pour légitimer son propre pouvoir. Et là-dessus, il n'a pas changé. Donc c'est très, très provisoire le moment où, finalement, il accepte que la société rappelle ses souffrances. Il ne veut pas que ça remette en question le parti. Et là, on voit la différence entre l'histoire soviétique et l'histoire chinoise, c'est que dans l'histoire soviétique, on avait Lénine et Staline. Hein, en Chine, on a seulement Mao. Donc le problème, c'est qu'il ne peut pas y avoir de démaoïsation. Donc Deng s'est absolument opposé à toute démaoïsation, malgré le souhait d'une bonne partie des gens qui ont écrit à la fin des années 70, les intellectuels, les jeunes qui avaient été envoyés à la campagne, etc., parce qu'il craignait que ça mette à bas absolument toute légitimité du Parti communiste lui-même. Et il a repris les termes mêmes qu'avait employé Mao à Yan'an, hein, qui avait lui-même fait publier une décision sur quelques points historiques du parti, donc c'était à peu près le même titre, hein, qui, à l'époque, parce que Mao voulait affirmer sa propre position dans l'histoire du Parti communiste chinois et s'affirmer comme le chef incontestable du Parti communiste chinois. Donc on voit bien qu'il y a une absolument, c'est dans la même lignée. Deng Xiaoping ne sort pas de la lignée de l'utilisation de l'histoire pour justifier son propre pouvoir. Donc ça, c'est, voilà, et c'est donc, et ça, évidemment, ça va aller complètement à l'encontre de la volonté de la société en général, notamment des victimes, qui vont, elles, chercher quand même à obtenir carrément des compensations, au moins une réhabilitation, et aussi de toutes ces gens qui ont envie qu'on dise simplement la vérité. Et de plus en plus, il va y avoir des gens qui vont essayer de simplement d'exister historiquement. Tous ces gens qui ont perdu 20 ans de leur vie dans des camps, ils ont quand même envie que ça reste, qu'on le sache. Hein. Et tous ces gens qui ont été après, c'est un peu plus tard, dans les années 90, et même jusqu'à maintenant, tous ces gens qui ont perdu 6 ans ou 10 ans de leur vie dans les campagnes, même s'ils en ont parfois un souvenir qui n'est pas entièrement négatif, ils ont envie que ça se sache. Ils ont envie que ça reste dans l'histoire. Sinon, ils disparaissent totalement de l'histoire. Donc là, il y a l'opposition, justement, entre l'histoire officielle, qui est une histoire qui a toujours, jusqu'à maintenant, pour but essentiel de justifier que le Parti communiste chinois tienne le pouvoir, et l'histoire non officielle. L'histoire non officielle, comme l'a dit Ding Dong, c'est en grande partie essayer de sauver la vérité, de sauver des faits historiques de l'oubli total. Voilà. Donc en gros, c'est là qu'on... C'est évidemment directement lié à la question de la démocratie. Parce que... si on peut avoir plusieurs visions de l'histoire, ou si des personnes qui ont été victimes peuvent demander réparation, là on entre dans un rapport entre le pouvoir et l'histoire qui n'est plus le même. C'est-à-dire que ça introduit la société dans l'histoire. La société a son mot à dire sur l'histoire. Hein. Et donc là on n'est plus dans un système purement despotique.
Alors justement, dans ce grand mensonge officiel organisé donc par Deng Xiaoping, puisque redonnons à Deng Xiaoping ce qui appartient à Deng Xiaoping, parce que tout le monde pensait que la responsabilité en incombait à Mao lui-même. Comment on arrive à cette équation un peu stupide de 70% de bien, 30% de mal? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Tsai Wai-ping, vous avez des étudiants, disiez-vous, qui étaient très intéressés par justement la recherche de cette histoire non officielle. C'est quoi cette équation ?
Malgré le travail effectué pendant des années par le chercheur comme Ding Dong, il y a encore beaucoup de jeunes qui ne connaissent rien de l'histoire. Cependant, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir s'informer sur la révolution culturelle ou le mouvement anti-droitier et ils recherchent la vérité historique. Ainsi, l'année dernière, le directeur du quotidien de Gansu a déclaré sur Weibo qu'il n'avait jamais rencontré des gens ayant vécu les 3 ans de famine. Quand cette phrase est sortie sur Weibo, beaucoup de gens ont réagi. Certains jeunes sont rentrés chez leurs parents pour leur demander s'il y avait eu des morts dans leur famille. Ensuite, ils en ont discuté sur Weibo. Les enquêtes historiques sont les sujets de plus en plus demandés. Si un poste parle d'un événement historique, il a toutes les chances de se retrouver partout sur la toile.
De nos jours, en Chine, lorsqu'on aborde la question de l'histoire, deux mondes s'opposent. Le premier, dominant, reprend en substance les thèses de Deng Xiaoping. Mais rédiger une histoire officielle prend du temps. On ne peut en sortir une édition que tous les 20 ans. En plus de ça, son impact est limité. Je pense que maintenant, pour le parti, l'objectif essentiel est d'éviter au maximum les sujets qui fâchent. Au sein de la population, plusieurs sons de cloche concernant la version de l'histoire se répandent sur les nombreux réseaux de diffusion. Tout d'abord, Internet, car ce média est plus réactif que la presse classique. La propagation de l'information y est instantanée. Il y a naturellement bien d'autres moyens de diffusion. Par exemple, les livres qui ne peuvent être publiés en Chine le sont à Hong Kong, puis introduits en Chine par ceux qui les achètent. Certains publient leurs livres à compte d'auteur sans numéro ISBN, ce qu'il faut noter également. C'est que entre les publications diffusées, dans le circuit classique, il y a des différences. Par exemple, Yanhuang Chunqiu se démarque de ses concurrents par sa singularité en énonçant nombre de vérités. Il se différencie grandement des périodiques contrôlés en sous-main par le pouvoir. Parmi les historiens, il y a également des différences. Certains s'expriment de manière indépendante et s'attachent à véhiculer la réalité historique, non sans résultat. Certaines personnes sont même des témoins directs de l'histoire et souhaitent apporter leur pierre à l'édifice. Les jeunes aussi s'intéressent à l'histoire. Ils ont l'avantage de ne pas avoir le cerveau encombré de clichés. Nous devons constater qu'il existe un courant soi-disant de gauche. Ils considèrent que Mao était correct et Deng Xiaoping ne l'était pas. Et il souhaite interpréter l'histoire selon la vision de Mao Zedong. Et c'est devenu une voix active parmi la population. Donc, on peut considérer que les voix sont multiples et diversifiées.
Alors, vous parliez tout à l'heure, Michel Bonin, de l'Union soviétique, où aussi il y avait une science du langage, où on accusait les Suisses de voler les montres russes pour ne pas accuser les autres. Cette science du langage, elle n'a jamais fonctionné en Union soviétique. Pourquoi est-ce que ici on arrive à faire en sorte que cette science du langage, elle rend muet un certain nombre de gens? Cette histoire, elle a forcément été transmise dans les familles. On a du mal à comprendre pourquoi aujourd'hui il y a toute une génération de gens qui ne connaissent pas cette histoire.
Tout ça, c'est une grosse question, la question de la transmission de la mémoire finalement historique, notamment dans les familles. C'est intéressant parce que moi j'ai fait venir à Tsinghua une spécialiste de la mémoire juive qui expliquait que après la guerre, toute la génération des enfants, des gens qui avaient vécu la Shoah, finalement, n'ont rien su pendant très très longtemps. Les parents ne voulaient pas en parler parce que c'était trop douloureux et parce qu'ils pensaient que ce serait mauvais pour eux. Ce serait un fardeau pour eux, alors qu'il fallait regarder vers l'avenir. Et donc, en Chine, il y a eu un phénomène un peu semblable. C'est-à-dire qu'après la révolution culturelle, après toutes ces catastrophes, à partir du moment où les gens ont vu qu'on n'était plus obligé de parler de politique tous les jours, etc., et qu'on pouvait se débrouiller en faisant de l'argent, choisir soi-même son métier, ses études, etc., ils se sont dit, bon, oublions tout ça, laissons les enfants vivre une vie nouvelle. Donc il y a eu ce phénomène, et ça explique en partie que les jeunes ne sachent rien, parce qu'évidemment, de l'autre côté, du point de vue officiel, si vous voulez, du point de vue de l'État, là, il y a une volonté d'occultation absolue, donc comme l'a dit Ding Dong, finalement les autorités officielles n'ont plus de langage, n'ont plus de discours sur leur propre histoire. Leur seule façon d'empêcher l'histoire de remettre en cause leur légitimité, c'est finalement d'imposer le silence. Donc c'est le silence officiel contre toutes sortes de discours non officiels. Avec des points de vue différents, etc. Mais si vous voulez, donc ce qui est important, c'est de montrer que il y a eu aussi donc une occultation familiale pour des raisons que je viens de dire, c'est-à-dire parce qu'on pensait que c'était pas utile, que c'était plutôt négatif de parler de tout ça et qu'il fallait penser à autre chose. Mais ce qui se passe souvent, c'est que les jeunes générations, elles, ne marchent pas. Au bout d'un certain temps, elles disent « mais on aimerait bien savoir ». Moi, j'ai sorti mon livre sur les jeunes instruits, le mouvement d'envoi des jeunes instruits à la campagne. La première fois que j'ai fait une conférence en Chine, le livre est sorti en chinois aussi, première fois que j'ai fait une conférence, j'ai été surpris de voir que la moitié étaient des jeunes. Je me suis dit « mais comment ça se fait ?» Je pensais qu'il n'y aurait que les anciens jeunes instruits qui seraient intéressés par ce sujet. Eh bien non, c'était des jeunes qui voulaient essayer de comprendre l'histoire de leurs parents. Et ça, c'était vraiment très intéressant, si bien que j'ai même fait une conférence avec un enfant de jeune instruit pour discuter. Donc je pense qu'il y a là quelque chose qui est important, c'est que la jeune génération voudrait savoir. Et il y a tout, du coup, comme il y a aussi parmi les gens qui ont vécu ces moments tragiques, des gens qui veulent parler, notamment qui arrivent à un certain âge et qui se disent, si on ne parle pas, après, c'est quelque chose qui va disparaître totalement. Donc, il y a une convergence et il y a toutes sortes d'activités sur Weibo, bien sûr, sur le microblog, mais aussi, on n'a pas encore cité les documentaires non officiels. Il y a aussi les documentaires. En ce moment, il y a celui qui a été le premier à faire des documentaires non officiels, qui s'appelle Wu Wenguang, qui a lancé un grand projet de mémoire de la grande famine. Et donc, il prend des jeunes, il leur donne une caméra et il leur apprend un peu la technique et il leur dit, partez dans votre village d'origine, à la campagne. Et donc, ils partent à la campagne et ils font une enquête sur la grande famine dans les campagnes. Et tout ça, il le met sur Weibo. Et donc, tous les jours, vous pouvez voir des preuves avec les photos des gens qui disent... Hier, il y avait une vieille dame qui disait « Ben voilà, mon bébé est mort pendant la grande famine, etc. » Donc, Voilà, tout ça, ils ne peuvent pas l'empêcher. Donc, ça, donc il y a maintenant quand même, pour ceux qui veulent, qui ont envie de savoir, il y a les moyens de savoir des choses. Alors le problème, c'est que cette mémoire, elle reste quand même souvent un peu individuelle, familiale, et qu'il faudrait que tout ça soit repensé par des historiens. Alors il y en a qui essayent de faire ce travail, mais comme le disait Ding Dong, la plupart du temps, ils sont obligés de publier à Hong Kong. Mais enfin, Hong Kong existe. Hein. Ils peuvent publier à Hong Kong, et puis en fait, après, les livres peuvent revenir en Chine, ou bien les textes publiés à Hong Kong sont mis sur Internet, hein, ou bien ils sont piratés. Il y a des éditions pirates qui sont en Chine, hein, comme mon livre au départ, il était publié à Hong Kong, il a eu tout de suite une édition pirate en Chine, avant d'avoir une édition officielle. Et donc tout ça, ça fait que l'information quand même sur l'histoire, elle commence à se diffuser. Et dans une certaine mesure, on peut dire que c'est elle qui tient le haut du pavé, parce que le pouvoir lui-même n'a plus de discours. Il n'a plus de discours. Il ne sait plus quoi dire que le silence, l'oubli.
Jean-Philippe Béja, vous n'aviez pas l'air totalement d'accord avec Michel Bonnard.
Non, je crois que je suis d'accord, mais je crois qu'il faut peut-être préciser. Quand on dit le pouvoir n'a pas de discours sur l'histoire, il n'a pas de discours sur l'histoire. Il a au contraire tout un discours sur l'histoire. Il n'a pas de discours sur les faces noires de l'histoire, sur les aspects sombres de l'histoire. Et là-dessus, il fait le blackout et essaye de maintenir ce blackout. Mais on ne peut pas dire qu'il n'est pas un discours. Au contraire, on a la marche héroïque du Parti communiste qui montre la marche en avant de l'ensemble du pays. Donc, il y a un discours officiel. Et ce qui est intéressant cette histoire non officielle, cette histoire de la société, c'est qu'en fait, l'initiative n'a pas été prise par des historiens. Et c'est ce qui s'était passé également en Union soviétique. Le mouvement Memorial, qui a été créé en 1988 pour rendre hommage aux victimes de Staline, n'avait pratiquement pas d'historiens en son sein. Et les personnes qui ont commencé à lancer ce qui n'est pas encore un mouvement organisé, mais ce mouvement d'écriture de l'histoire, ce sont des gens qui, justement, sentaient qu'ils vieillissaient et qu'il fallait absolument raconter leur victime. Et puis, il faut voir, c'est des gens qui sont souvent engagés politiquement. C'est des gens qui ont été traumatisés par le massacre du 4 juin, qui ont revisité l'histoire de leur répression et qui estiment que, voyant justement le blackout total qui est fait sur le 4 juin et le silence, l'ignorance, le 4 juin 1989, le massacre de Tiananmen, l'ignorance des jeunes se sont dit, il faut absolument, si on veut avoir une véritable démocratie en Chine, il faut absolument que l'on puisse regarder l'histoire en face pour que ça ne se reproduise plus. Et vous avez des initiatives prises par des victimes de divers mouvements qui étaient lycéens dans les années 50 dans un bled du sud-ouest de la Chine, qui font ce que décrivait Ding Dong, c'est les samizdat. Samizdat, ça veut dire édité par soi-même. Bon, ben, c'est des gens qui vont faire leurs livres, ils vont les distribuer et ils vont aller dans les lycées, partout où ils peuvent, essayer de donner leur version de l'histoire. Ils vont rechercher les victimes. Ils recherchent les victimes pour qu'ils racontent leur histoire. Et puis vous avez, par exemple, tout un groupe de droitiers des années donc 57, qui ont fait leurs 22 ans de camp, soit d'ostracisme, soit de séjour à la campagne, qui sont revenus, qui n'ont toujours pas été réhabilités, et qui estiment qu'il est extrêmement important pour l'avenir de la Chine de raconter leur histoire.
Les victimes de l'histoire, au crépuscule de leur existence, ils ressentent l'envie de dire la vérité. Leurs mémoires sont un phénomène nouveau dans le milieu de la recherche historique de ces dernières années. Ainsi, les mémoires de Qiu Huizhou et de Wu Fajian ont eu une grande influence sur la recherche concernant l'histoire du PCC et de la Révolution culturelle. Citons un autre cas, celui de Yan Changgui. Il a été pendant un an le secrétaire particulier de Jiangqing. Il a passé 7 ans dans la prison de Qiancheng. À plus de 70 ans, il a eu envie de dire que l'histoire qu'il avait vécue ne ressemblait en rien à l'histoire officielle. Il a eu envie de dire que l'histoire qu'il avait vécue ne ressemblait en rien à l'histoire officielle. 许多重大的历史问题提出他独立的见解啊
Alors,
on a une configuration qui est très positive, si on peut dire. C'est comme disait le président Mao, c'est les lois de la biologie. Ces gens vieillissent. Ils se sentent de plus en plus près de la fin de leur vie et ils se disent, qu'est-ce que je risque à dire la vérité ? Il n'y a pratiquement pas de risque. Et donc, ils commencent à parler. Ce qui fait qu'on voit aujourd'hui une floraison de témoignages qui sont en train de se faire sur tous les mouvements. Et alors, on retourne dans l'histoire. Exactement ce qui s'est passé en Union soviétique. Hein. On avait commencé avec, avec les premières victimes de Staline, et puis on est arrivé à Boukharine, et puis après on est arrivé à Trotsky, etc. Et bien aujourd'hui, on a ça en Chine. C'est-à-dire qu'on a commencé bien sûr par la révolution culturelle, et puis la grande famine. Alors il y a énormément de choses sur la grande famine depuis quelques années, grâce notamment à Yang Zichen, hein, qui a fait le livre qui a été traduit en français. Et puis on est remonté au mouvement anti-droitier de 1957, et puis le mouvement Hufeng, 55, et enfin, la réforme agraire, qui est le grand succès du Parti communiste, qui est la base même de sa légitimité. Or, aujourd'hui, on commence à voir des textes qui racontent les excès atroces qui se sont produits pendant la réforme agraire, où on est bien loin d'avoir exécuté simplement des propriétaires fonciers, mais simplement les gens qui ne plaisaient pas aux nouveaux cadres ont été exécutés comme propriétaires fonciers, même s'ils étaient paysans pauvres. Et là, on se rend compte de la mise en œuvre de l'arbitraire. Et je voudrais quand même citer au moins le nom de Gao Hua, qui est un grand historien qui est mort l'an dernier et qui, lui, avait écrit énormément sur le mouvement de rectification de Yan'an en 1942. Ce mouvement est essentiel car il montre le mécanisme qui va se mettre en place pendant toute la période maoïste. Appel à la société pour critiquer l'état du pouvoir, et puis une fois que les gens sont sortis, mouvement de répression, envoi en camp, envoi à la campagne. D'où la réhabilitation de Wang Shouwei, qui était l'une des victimes de ce mouvement de 1942. Et si vous voulez, il faut bien voir le lien direct entre ce qui semble l'histoire, qui pourrait sembler académique, et la réalité politique. La réalité politique et le besoin de démocratisation. Il faut bien voir que ce mouvement a commencé très largement après le 4 juin 1989, après ce trauma, c'est-à-dire le massacre de Tiananmen, qui montre justement le caractère dramatique de l'ignorance de l'histoire. Et je crois que justement l'un des problèmes du mouvement pour la démocratie en Chine, c'est son incapacité d'avoir accumulé les expériences de l'histoire, son ignorance des expériences précédentes. Et aujourd'hui, un certain nombre de gens se disent il faut absolument combler cette lacune aujourd'hui. Et donc quand ils écrivent l'histoire, évidemment, il y a une catharsis personnelle, mais il y a aussi une idée qui est celle de comment transformer le régime.
Alors il y a un autre personnage aussi qui s'intéresse à la vie des petites gens, justement, Xi Jinping, qui vient d'être nommé président de la République populaire de Chine, qui va dans les médias, devant les médias, à la rencontre justement de ces petites gens. Est-ce qu'il incarne une forme d'espoir, ce Xi Jinping, ancien jeune instruit, lui-même victime justement de Mao, mais qui dans le même temps réutilise toute une rhétorique maoïste? Alors c'est quoi, on souffle le chaud, le froid, on va revenir un peu sur l'histoire, on va pas y toucher. Comment on voit les perspectives d'avenir ?
Je pense que c'est ça. C'est-à-dire que ces années, la Chine, ce guan-min maodun,
je trouve que depuis quelques années, les antagonismes entre les fonctionnaires et la population se sont amplifiés, que la crise entre des cadres qui détiennent le pouvoir et une population qui n'a aucun droit est de plus en plus aiguë. Les petits gens, qu'ils soient travailleurs, migrants ou en situation précaire, endure de manière générale de plus en plus de souffrance et ont de moins en moins de possibilités de se défendre. Xi Jinping doit être conscient de cela. S'il ne fait pas un geste en direction de la population et ne fait aucun effort pour aider les exclus, sa légitimité sera remise en question. Il a fait partie des jeunes instruits envoyés à la campagne et y a été secrétaire de cellule de brigade et ensuite de secrétaire de comité de district. Il a gravi un à un les échelons du pouvoir
Je pense qu'en faisant ce choix, il est en phase avec son passé et avec son vécu politique. Mais la question qui se pose est, en empruntant cette voie, jusqu'où pourra-t-il aller ? La Chine pourra-t-elle vraiment devenir une société juste, voire constitutionnelle ? L'avenir nous le dira.
Oui, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, revisiter l'histoire, c'est aussi prendre des mesures pour aller vers une ouverture démocratique de la Chine. Donc les simples citoyens s'emparent de cette histoire, les victimes, comme vous le disiez tout à l'heure, s'emparent de cette histoire pour dire que le Parti communiste raconte des mensonges et les Chinois font semblant d'y croire. Il y a des revues démaoïsantes. Je pense à la revue, alors pardonnez mon accent, hein, Yan Huan Chuanqiu, dont un des rédacteurs, Wu Se, c'est lui qui disait justement que le pouvoir chinois produisait des mensonges et que le peuple faisait semblant d'y croire. Pourtant, donc le 3 janvier 2013, il y a quelques semaines, le site web de la revue était fermé. Donc, Jean-Philippe Béja.
Bon, la fermeture du site web est un problème technique. Ce n'est pas un problème politique. Ça nous a été confirmé par Wu Se, et je crois qu'en l'occurrence, c'est vrai. Ce qui ne veut pas dire que Yan Huang Chuanqiu ne subit pas de pression. Yan Huang Chuanqiu subit des pressions. Mais justement, Ding Dong parlait tout à l'heure des cadres dirigeants du parti qui profitent de leur grand âge pour commencer à raconter la vérité sur l'histoire. Yan Huang Chuanqiu est protégé par des cadres qui ont entre 88 et 96 ans, pour le plus jeune. Et donc c'est très difficile pour les dirigeants du parti de prendre leur téléphone et de dire à Du Daozheng ou de dire à Li Jue, bon, écoutez, aujourd'hui, taisez-vous, parce qu'ils ont une plus grande ancienneté dans le parti. Donc ça, c'est quelque chose qui est difficile. Mais ça ne les empêche pas, de temps en temps, d'interdire un certain nombre d'articles. Donc il y a toujours une bagarre entre les revues qui cherchent à rétablir l'histoire et le pouvoir. Pour la question de Xi Jinping, je crois qu'effectivement, rappelez-vous une chose. En 1985, Gorbatchev est arrivé au pouvoir. En 1988, il a autorisé la création de l'association Mémorial. L'association Mémorial avait comme but ouvert, public, de recueillir des fonds pour construire un mémorial aux victimes de Staline. C'était la perestroïka. Ça aboutit aussi en grande partie à la démocratisation parce qu'il y a eu une grande discussion dans l'ensemble de l'Union soviétique sur l'histoire du parti et sur la légitimité profonde du parti. Très franchement, j'imagine mal Xi Jinping arriver et dire « Voilà, nous allons autoriser la Jinyanbei Xiehui qui va établir un monument aux victimes de Mao ». D'abord parce que, comme le disait Michel, Mao est à la fois le Lénine et le Staline. Donc, c'est pour ça qu'on avait fait l'histoire des 20 ans, mais c'est toujours la même personne. Donc, si vous attaquez Mao, vous attaquez la légitimité du régime. Donc, c'est difficile. Et puis, il a vu les résultats de ce genre de choses. Donc, si vous voulez, ce que je pense, c'est que ce qui risque de se passer, c'est ce que décrivait Ding Dong. C'est-à-dire de plus en plus de gens qui commencent à donner leur propre version de l'histoire. Tant que c'est confiné sur Internet, sur des revues qui sont certes officielles, mais Yan Huang Chuanqiu a 170 000 lecteurs. Vous me direz, c'est pas mal hein, pour une revue historique. Ici, on est 1,4 milliard d'habitants. Alors ça, on peut tout de suite relativiser. Donc tant que c'est limité à des cercles relativement restreints, c'est pas très grave. Et là-dessus, il peut effectivement relâcher un peu la pression de temps en temps. Mais avoir de grands débats au Parlement ou bien dans l'ensemble des universités, des grands débats sur l'histoire ou dans la presse, ça, je crois qu'il va faire bien attention avant de s'y mettre. Et pourtant, on peut dire qu'il est bien placé. Il est lui-même une victime. Son père était une victime de Mao, il faut quand même le voir. Hein. Et son père a été un grand libéral. Donc, il a tout le pédigré nécessaire pour le faire. Moi, j'ai personnellement un certain nombre de doutes sur le fait qu'il va le faire.
On ne peut pas avoir une histoire honnête, parce qu'elle remettrait en cause des intérêts absolument énormes de ce qu'est devenu le Parti communiste chinois, c'est-à-dire un énorme lobby capitaliste qui possède une bonne partie des biens du pays. Donc là, on est dans une situation un peu bloquée. Alors, comment est-ce qu'on peut en sortir? Il faudra voir. Je pense que Xi Jinping, c'était quelqu'un qui, quand même, effectivement, a été envoyé à la base, à la campagne, et qu'il a monté petit à petit, il a joué le jeu, mais avec un grand pragmatisme, il a réussi à arriver jusqu'au bout. Bon, évidemment, parce qu'il avait l'avantage d'être un fils de dirigeant qui a été ensuite réhabilité, donc voilà, il avait cet avantage, mais je pense qu'il y a quand même un grand pragmatisme. Alors, est-ce que ce pragmatisme lui permettra de trouver une espèce de juste milieu permettant d'avoir un petit peu de vérité historique et malgré tout conserver la légitimité des intérêts qu'il est là pour défendre, ou est-ce que finalement on va se retrouver dans des contradictions perpétuelles? On a toujours l'impression depuis quelques mois que tout ce qu'il dit est contradictoire. Hein, il dit une chose et puis après, pof, il dit autre chose qui a l'air complètement contradictoire. Donc là, on est dans cette situation et c'est bon, très difficile de dire aujourd'hui comment ces contradictions seront résolues.
Alors Deng Xiaoping, c'est l'homme des petites phrases, hein, après avoir dit que peu importait la couleur du chat du moment qu'il attrapait les souris, il dit donc cette phrase en 1981, Mao c'est 70% de bien et 30% de mal, c'est lui qui bloque la situation depuis.
Rappelons que 70-30, c'est la manière dont Mao avait parlé de Staline. En 1956, au moment du 20e congrès.
Donc non seulement il copie, mais en plus il bloque.
Voilà. je crois que... Bien sûr, mais Deng Xiaoping, il a, au fond, on pourrait dire, il a résumé la sagesse de la direction collective du Parti communiste. Je crois que c'est l'intérêt même du Parti communiste aujourd'hui. Alors, on peut passer à 60-40, hein, faut être sérieux. Ça, je pense que même Xi Jinping est capable d'une telle initiative aussi osée, hein, 40 ans après la mort du grand timonier, c'est une chose possible. Mais Michel le disait très clairement, on ne peut pas remettre en question la position de Mao Zedong sans remettre en question la légitimité du pouvoir. Et la légitimité du pouvoir, c'est ce qui est essentiel. Vous n'avez aucun autre, vous avez un autre moyen seulement de renforcer la légitimité du pouvoir, c'est le développement économique et l'élévation du niveau de vie. Mais comme vous le savez, on n'est jamais maître des cycles de l'économie. On peut toujours se trouver face à une crise et avoir un problème. Alors vous avez quoi ? Vous avez la légitimité historique. Nous sommes là parce que l'histoire nous a désignés. Ce n'est pas le peuple qui nous a désignés puisqu'il n'y a pas d'élection. Comment est-ce qu'on vérifie que le peuple vous a désigné ? Eh bien, vous dites, voilà, le marxisme-léninisme, le peuple nous a désignés, nous sommes la force d'avant-garde du peuple chinois. Et voilà, nous la force. Si vous mettez ça en question, si vous dites, le fondateur était un tyran, le développement historique, on a fait au moins pendant 30 ans, on a commis que des crimes. Et pendant les 30 ans suivants, on a fait le massacre de Tiananmen qui était réprimé, les nouvelles forces qui poussaient vers la modernisation du régime politique chinois. Si vous dites ça, on vous dit, mais qu'est-ce que vous faites là ? Écoutez, vous avez prouvé devant l'histoire que vous étiez pas du tout les défenseurs des intérêts du peuple chinois. Donc dans ces conditions, c'est ce qu'on appelle la bottom line. Hein. C'est une chose qu'on ne peut pas mettre en question. Il faut que le Parti communiste soit correct. C'est devant Tiananmen, si vous regardez Zhong Nanhai, vous avez vive le grandiose, le correct, le juste Parti communiste chinois. Écoutez, jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé autre chose pour maintenir sa légitimité. Donc si Xi Jinping trouve autre chose, on verra bien. Mais je crois que ce n'est pas demain la veille.
Oui, d'autant qu'il y a un énorme déficit de légitimité avec la corruption qui est de plus en plus dénoncée et mal ressentie dans la population. Donc pour lutter contre ce déficit énorme de légitimité, il faut bien trouver quelque chose. Et il faut se garder certaines bases. Hein. Et donc, dans ces conditions, pour l'instant, je ne vois pas comment il pourrait aller fondamentalement vers une réécriture plus honnête de l'histoire.
可能在一些比如说官方的系统里面
Il se peut que dans certaines structures étatiques, comme l'édition ou l'éducation, dans les manuels de cours du primaire, du secondaire ou du supérieur, il en soit ainsi. Mais cela est différent via d'autres réseaux. Internet, publications à compte d'auteurs, etc. Je pense que de nos jours, beaucoup de jeunes dans le monde ont des connaissances historiques suffisantes pour comprendre que l'histoire est remplie de crimes et que Mao Zedong est un criminel.
Juste un mot là-dessus. Nous étions d'ailleurs avec Tsui Weiping à une réunion organisée par la revue Caniche et une lycéenne a obtenu le prix du meilleur devoir d'histoire parce qu'elle avait écrit quelque chose sur, je ne me souviens plus, mais un épisode dramatique. C'était sur le Grand Bond d'ailleurs, je crois, sur la famine du Grand Bond en avant. Elle avait écrit un texte qui était extrêmement bien documenté et très émouvant. Et on l'a donc fait parler. Et elle a raconté un peu comment elle avait rédigé ce texte. Et elle a dit, mais rassurez-vous, aux examens, ne vous en faites pas, je sais ce qu'il faut dire. Et je crois que c'est effectivement l'une des choses qui montre bien. Je crois que Tsui Weiping a raison. Et je crois que malheureusement, nous aussi, nous avons raison. C'est-à-dire que dans l'espace public, notamment quand c'est tout à fait officiel, vous ne pouvez rien dire. Mais, sinli au chaud, comme on dit, hein, on sait très bien ce qui se passe.
Ce qui m'a frappé, justement, c'est ce côté schizophrénique de la Chine d'aujourd'hui. C'est que de plus en plus, comment est-ce qu'on va sortir de cette schizophrénie ? C'est-à-dire qu'il y a un discours officiel complètement squelettique, pratiquement inexistant, mais en même temps, tous les discours très riches et toute l'histoire non officielle qui se développe, elle est en complète contradiction. Mais quand on entre dans... quand on doit passer des examens, quand on doit entrer au parti pour pouvoir monter en grade et donc participer à des discussions à l'intérieur des cellules du parti, il faut dire autre chose. Et donc il y a vraiment tout le temps cette contradiction est de plus en plus énorme. L'écart, vous voyez, le grand écart que les gens doivent faire entre ce qu'ils doivent dire officiellement et ce qu'ils savent et la vie réelle, il est de plus en plus grand. Alors on peut se demander jusqu'à quand ça peut aller, quoi, et jusqu'à quand ça... À un moment, ça va peut-être craquer.
Alors justement, Ding Dong, vous, cette schizophrénie, vous l'avez refusée à partir de, au moment de la révolution culturelle. Donc, vous étiez garde rouge. Cette histoire, vous la connaissez par cœur. Vous l'avez vécue, vous l'avez subie. Comment est-ce qu'on prend la décision un jour de dire « Je vais écrire la vérité, je vais dire la vérité » ?
Cela, d'après moi, est une conséquence du 4 juin et de la chute du bloc soviétique. Ces événements ont précipité la fin de la guerre froide et m'ont ouvert les yeux sur l'histoire et la direction prise par le genre humain. En tant que personne, en tant qu'intellectuel, je pense que je dois aller dans le sens des aspirations des gens et partir de ce postulat pour accomplir mon travail. C'est un choix personnel, mais comme c'est le cas pour beaucoup de gens en Chine, je dois partager ma vie entre la réalité quotidienne et la recherche de la vérité. Ce dédoublement de personnalité porte atteinte à la spiritualité et à la morale du peuple chinois. Cela est très préoccupant.
Oui, je voulais simplement dire que Ding Dong a expliqué dans un texte qui est publié par la revue Perspective Chinoise, qui est un texte, qui est une revue, un numéro spécial de la revue Perspective Chinoise, un des derniers numéros qui est consacré justement à Mao aujourd'hui en Chine. Il a écrit justement son itinéraire intellectuel, comment il est passé de garde rouge à aujourd'hui un historien largement anti-maoïste. Je voulais citer ça parce que la question, c'est, il a exactement répondu de façon très détaillée sur son évolution intellectuelle et comment on passe effectivement d'un garde rouge à quelqu'un qui a décidé que pour ce qui lui reste à vivre, il va décrire la réalité de l'histoire de l'époque maoïste.
Juste rajouter un mot, il y a une personne aussi qui a écrit là-dessus, qui s'appelle Liu Xiaobo, qui est actuellement en prison, qui est le prix Nobel de la paix, et qui a expliqué justement l'importance d'écrire dans l'histoire. Et au fond, Ding Dong a fait le choix de vivre dans la vérité, de dire ce qu'il pense et de penser ce qu'il dit. Ce qui est, il faut bien le voir, ça a l'air de rien. Il a l'air comme ça de quelqu'un tout à fait normal, etc. Mais c'est quelqu'un de normal qui a un grand courage. Et je crois que Tsui Weiping aussi est une personne qui a décidé de vivre dans la vérité, de dire ce qu'elle pense et d'assumer les conséquences de ce qu'il pense. Et je vous assure que de temps en temps, on a des conséquences à assumer ici. Donc il faut simplement rappeler qu'on a affaire à des gens qui font preuve d'un très grand courage pour écrire la vérité.
我补充一下丁当先生的工作，他刚才说他选择一个研究一个真实的历史的道路。
Monsieur Dindon vient d'expliquer ce qui l'a poussé à étudier l'histoire. Il y a une autre explication. En fait,
民间思想那个史的研究者。
Il se présente comme historien de la pensée populaire moderne en analysant le livre sur l'exécution de Hulot Ke pendant la Révolution culturelle. Il a fait la découverte d'une pensée populaire originale et il est devenu progressivement une personne sensible. Ce qui est dramatique, c'est que, avant de sortir son livre à compte d'auteur, la police a perquisitionné chez lui et a embarqué l'ordinateur qu'elle ne lui a toujours pas restitué à ce jour. Il a également été amené et interrogé pendant plus de
10 heures.
Oui, sensible ici, hein, c'est dans le sens chinois, c'est-à-dire une personne qui a des problèmes politiques.
Oui, parce que vous le disiez, vous le rappeliez, Jean-Philippe Béja, Liu Xiaobo est donc en prison. Il n'a pas pu aller chercher son prix Nobel de la paix. Ding Dong et vous, Tsai Weiping, vous prenez des risques à vouloir titiller la vérité historique ici en Chine. J'imagine qu'il y a eu aussi un processus qui vous a poussé à vous dire ça suffit, le mensonge a suffisamment duré. Comment on prend une décision comme ça? Comment on s'engage à un moment donné à dire autre chose que la version officielle?
Je vais vous raconter ma première expérience, soi-disant invitation à boire le thé. C'était en 2004, l'année du 15e anniversaire du 4 juin. Comme des amis et moi, en tant que mère, avons écrit une lettre en notre nom pour les mères de Tiananmen. On nous a inscrits sur la liste noire. Naturellement, je n'ai pas fait que ça. C'est parce que j'ai voulu me souvenir de l'histoire et que j'ai eu envie que tout le monde prenne connaissance des choses qu'on nous cache et que j'ai commencé à être invitée à boire le thé.
Et ensuite,
d'abord, on m'a amené au commissariat, puis mon téléphone et ma boîte mail ont été mis sous surveillance. Ils venaient me rendre visite une fois par mois. Les premiers jours, ils m'interdisaient d'aller manger dehors. Puis, ils m'ont empêché d'inviter des amis à la maison. Alors, c'était juste une petite réunion amicale.
Et c'est donc ça qui vous pousse, à un moment donné, à dire stop et à, justement, tenter de réécrire une vérité historique, en tout cas d'aller chercher la vérité historique.
Non, voilà le résultat lorsqu'on parle. Je pense que j'ai dit adieu au système en fait en 1989. Cette année-là a été un tournant pour moi dans ma manière d'appréhender les événements. Vous voulez que je vous raconte une anecdote? Les Français n'ont pas souhaité l'ébruiter. Mais aujourd'hui, je tiens quand même à vous en faire part. En septembre 2001, le ministre français des Affaires étrangères est venu en Chine. Il pensait rencontrer tout un tas de personnalités. Une fois, il m'a invité à prendre le petit déjeuner à l'ambassade de France. J'avais rendez-vous, en fait, à 7h15. Quand elle a appris ça, la police a voulu m'empêcher de m'y rendre. À ce moment-là, je me trouvais en banlieue. J'étais sortie toute la soirée et je n'étais pas rentrée chez moi. Il y avait plein de flics devant ma porte. À 1h du matin, j'ai pris la voiture en direction de l'ambassade. Le secrétaire était sur le point de me recevoir quand, tout à coup, deux voitures ont pilé net devant moi, une de la police et une autre de la sécurité de l'école. Ils m'ont embarqué. Cela était clairement une atteinte à ma liberté. Ce n'est pas à cause de cela que j'ai choisi de dire la vérité, mais c'est parce que j'ai dit la vérité qu'il m'est arrivé tous ces ennuis. La France a refusé de révéler cette histoire. Même si elle n'est pas responsable de cet incident, elle y est tout de même impliquée, n'est-ce pas?
Eh bien, c'est dit, mais je reviens juste sur l'événement. Vous disiez que c'est les événements de juin 89 qui vous poussent à militer et à dire ce que vous avez envie de dire, ou c'est d'autres événements antérieurs?
C'était en 1983.
Deng Xiaoping, à l'époque, avait décidé d'éradiquer la pollution spirituelle puis de combattre la libéralisation. En fait, je pense que cette année-là a été fondamentale pour moi. Comme vient de dire M. Dindong, avant cette date, les intellectuels et le gouvernement avaient emprunté la voie de la réforme et de l'ouverture. Mais en 1983, Deng Xiaoping a lancé une campagne de lutte contre la libéralisation bourgeoise et a demandé à ce que l'on respecte les quatre principes fondamentaux. Nous pensions qu'il ne voulait pas vraiment réformer et ouvrir le pays et lui faire prendre le chemin de la démocratisation, mais qu'il faisait tout le contraire. C'est à partir de ce moment-là que des graves divergences idéologiques sont apparues. Et c'est en 1989 que nos illusions concernant ce gouvernement se sont définitivement envolées.
Eh bien alors, en attendant que Xi Jinping revienne sur cette phrase de Deng Xiaoping et qui finalement ait le courage de nous dire que Mao c'est 60% de bien et 60% de mal et 40% de bien, je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette discussion. Merci à vous Tsai Weiping, merci à vous Ding Dong, merci à Michel Bonin et merci tout particulièrement à Jean-Philippe Béja de nous avoir prêté son salon pour ce studio improvisé ici à Pékin. Merci beaucoup. Xi Xianyi.
Mao Zedong, la cantoise. Anna Huangini,
Yang Yang,
Yang Misan, Cookie,
Zhao Rongkun,
Alan, Navkovich.
Ainsi s'achève cette avant-dernière étape de notre grande traversée consacrée à la Chine dans l'ombre de Mao. Dans quelques secondes, vous retrouverez comme tous les midis les bons plaisirs d'Ali Rebei. Quant à moi, je vous retrouve demain matin dès 9h pour le cinquième et dernier volet de cette grande traversée chinoise. En attendant, je vous souhaite une bonne journée à l'écoute des programmes de France Culture.
Alors je sens en moi mon cœur qui